Je voudrais consacrer cette émission à ce qui importe au creux d'une année liturgique catholique, le nouvel an catholique et toute cette année qui va se dérouler jusqu'au dernier dimanche, jusqu'à la fin de cette année, à la fin de novembre. Ce sont les évêques qui nous ont dit il n'y a pas si longtemps, aucune préparation au troisième millénaire n'aura de valeur ni d'effet si elle n'est pas enracinée dans Jésus le Christ et Jésus le Christ crucifié. C'est à partir évidemment des textes du Nouveau Testament que nos évêques parlent de cette façon. Mais il y a un problème, c'est de savoir qui est le Christ. Je vous en reparlerai évidemment le 25 décembre. Mais il faut bien prendre conscience que, au temps où Jésus-Christ s'est manifesté dans sa vie publique, c'était un inconnu. C'était vers l'an 27 ou 28 au début de sa vie publique, n'est-ce pas? Puisqu'il est mort en l'an 30, selon les dernières recherches. Or, Jean-Baptiste, son cousin, le précurseur dont je vous ai déjà parlé, le déclare catégoriquement aux Juifs qui sont venus de Jérusalem. Puis il leur dit cette phrase très étrange, « Au milieu de vous, oui, au milieu de vous, il est quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Pourtant, Jésus, fils de charpentier, on le rencontrait sur les routes, sur les marchés, dans les synagogues, les jours de sabbat, on l'avait vu même s'attabler avec bien du monde et boire du vin. On lui a même reproché à un moment donné d'aimer peut-être boire. C'est dans Matthieu. Chacun pouvait étudier d'ailleurs ses gestes, remarquer son accent, parce qu'il avait un accent particulier. Il était galiléen, comme Simon-Pierre. Et les gens de cette province de Galilée, province reculée, se trahissaient par leur accent. D'ailleurs, on peut lire que, surtout, que cet homme était devenu public même, visible, plutôt palpable, je dirais. Les gens se touchent facilement dans ces régions. Et cependant, cet être, Jésus, si mêlé aux autres, restait éperdument secret, puis il est resté durant sa vie publique. Retranché, on pourrait dire, dans sa solitude, dans un mystère, dont les plus lucides des observateurs du temps, dont Nicodème en particulier, ou même les plus purs comme Marie, Saint-Jean, ne sont pas parvenus à mesurer vraiment, j'appellerais ça la profondeur, quelle profondeur aussi, quelle profondeur qu'il y a dans ce personnage unique dans l'histoire de l'humanité. Et nous sommes aujourd'hui au 20e siècle, bien plus avantagés, Nous sommes heureux puisque l'Esprit Saint a travaillé l'Église et que tant de saints, tant de gens nous en ont parlé. La taille de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, nous a été précisée en clair tout au cours de l'histoire de l'Église. Ce fils de Dieu nous est vraiment bien révélé. Mais, et c'est là le problème, est-ce qu'en réalité, nous profitons sérieusement de tant de chances que nous avons accumulées par 2000 ans de foi et de sainteté? Est-ce qu'on a vraiment, ou à part quelques grands traits de son existence puis de ses souffrances, est-ce que des épisodes exceptionnels aussi, quelques-unes de ses paroles qui sont trop rabâchées pour pas avoir perdu leur force, là, il faut avouer que de Jésus, nous savons peu de choses. Aujourd'hui, même, la plupart des gens, trop peu. Et ce peu se traduit souvent par un simplisme effrayant chez beaucoup, beaucoup d'entre nous, et c'est triste à mourir. Il y en a un qui dit, le Christ est un sage. Oh, quel sage, quel sage, quelle élévation de l'âme, quelle morale. Et tout de suite, on les voit occupés à travestir la personne du Seigneur Jésus en je ne sais quelques gourous. On en fait un gourou. Il y en a d'autres qui ont prêté à Jésus l'idéal d'un militant marxiste, vous vous souvenez? Et ça dure encore, Comme il a vécu parmi les travailleurs, étant lui-même de petite extraction, puis comme il a plus ou moins fouetté de ses reproches, hein, les riches de son temps, les capitalistes, comme on dit aujourd'hui, mais aussitôt Jésus-Christ est promis au temps, au rang d'agitateur social. Enfin, il y a toute une vague image qui traîne dans l'Église depuis bien des siècles maintenant. Une image un peu fadasse. Que les vieux catéchismes, les retraites à l'eau de rose, les sermons mal faits, les pauvres livres qui se veulent pieux, ça laisse chez bien des catholiques qui sont parmi les meilleurs, eh bien, ça laisse un drôle de goût. On passe souvent du conte de fées au pire sentimentalisme. Il y a beaucoup de livres qui sont parus sur Jésus depuis quelques années qui sont beaucoup mieux maintenant. Pour beaucoup, Jésus demeure plus ou moins une sorte de magicien. Il fait disparaître les maladies, change les lois de la nature, et on peut l'invoquer dans ce but-là. C'est surtout ça, on va caresser les pieds de ses statues, les pieds d'un crucifix, puis on essaie d'obtenir du magicien qu'il change des choses. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de mal à demander d'obtenir des grâces et des grâces particulières et de faire des miracles, mais c'est la façon, c'est l'esprit dans lequel c'est fait, c'est ça qui est dommage. C'est qu'on ne le connaît pas, oh, je blâme pas ces gens-là. Quant aux détails de sa vie, bien, il y a toutes les traditions enfantines là, qu'on va revivre, on commence déjà, n'est-ce pas, les crèches illuminées, les décors des crèches dans les églises, puis même nos décors dans les églises. On noyait Jésus dans une espèce de brume d'irréel, dans des teintes de légende. Et si on a échappé à tout ça, il y a quand même trop de fidèles qui succombent devant le visage d'un bon pasteur devenu bon enfant, un peu bonasse. Ou bien, comme en Espagne ou dans d'autres pays de tradition espagnole, on accepte cette espèce de crucifié aux contorsions d'hystérique. On retrouve ça aussi en Allemagne il y a des siècles. Nous, c'est plutôt le Sacré-Cœur, aux couleurs puis au goût des pires bonbons, je dirais. Mais évidemment, Jésus, c'est le Sauveur. Hein? C'est le Sauveur, mais au fait, de quoi nous sauve-t-il? Il y a des gens qui disent « il est le Sauveur », ils ne savent pas de quoi il nous sauve. Ils restent pantois quand on leur parle de ça. Ils nous sauvent de l'enfer, quoi. Mais ils nous sauvent. Dans quel sens? Jésus, c'est un maître. Mais qu'est-ce qu'il enseigne? Beaucoup de gens n'ont jamais lu l'Évangile. C'est triste à dire. Jésus, c'est la vie. On le répète. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il est la vie. Voilà des questions que beaucoup de chrétiens ne se posent vraiment jamais. La cloche sonne, ils vont à la messe, ils restent là. Et c'est des prêtres qui ont écrit des textes que je vous redonne d'une certaine façon. Des jésuites, des dominicains, des prêtres. Et pourtant, si on détruisait la caricature qu'on a faite de Jésus ici et là, hein, combien de chrétiens arriveraient à trouver l'ineffable figure de Jésus qui a transformé tant d'âmes et en a fait des saints? Si le Christ est pour nous un inconnu ou un mal connu, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à le connaître intimement? Quelqu'un a déjà dit, il suffit de se munir d'une lampe et d'un livre. D'une lampe, eh bien, ça veut dire de la foi. Une foi vivante, car la connaissance de Jésus, le Seigneur, ça ne relève d'abord ni de l'étude de toutes sortes de langues, les langues araméennes, hébraïques, etc., ou grecques. Ça relève pas de tout cela, non, non. Pour surprendre les traits de Jésus, pour les dévisager, pour s'en pénétrer, il faut la lumière qui vient de son Père. Nul ne connaît le Fils, dit Jésus, si ce n'est le Père. Il faut se mettre ça dans la tête. Voilà une vraie manière de dire qu'il faut croire. Hein? Croire, est-ce que nous croyons? Est-ce que pour nous, Dieu, notre Père, est notre, je dirais vraiment notre Père, qui nous aime avec un cœur de mère et qui nous enseigne qui est son Fils? Et quant au livre, là, pour une lampe et un livre, bien le livre, Est-ce que c'est nécessaire d'insister? Tout le monde a compris, je suis sûr, vous avez tous compris. Il s'agit de l'Évangile, l'Évangile tout net, clair comme un ruisseau de montagne. Et voilà le livre qui va nous rendre attentifs au Christ Jésus, qui nous le révélera, qui fera de chacun d'entre nous, je l'espère, des éveillés. Et qu'est-ce qui arrive si on lit l'Évangile, tout simplement? Il est impossible que tôt ou tard ne surgisse ce qu'on pourrait appeler le scandale de Jésus Nazareth. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, Jésus a vécu environ 33 années sur cette terre, mais sur 30 ans de sa vie, nous ne savons quasiment rien, ou pour mieux dire, rien. Alors pourquoi Jésus a-t-il enseveli sa jeunesse à Nazareth, dans cette bourgade ignorée, ignorée même de ses contemporains, inconnue de tout l'Ancien Testament? Pourquoi la plus grande partie de son ministère se déroule-t-elle en Galilée, un pays perdu? C'est étrange, ça aussi. Pourquoi très vite le Christ prend-il aussi un aspect de, je dirais presque de traqué, qui le fait fuir jusqu'en terre païenne, on lit ça dans l'Évangile? Il y a des raisons. Pourquoi toujours ce refus de se manifester au monde? Pourquoi toutes ces réticences, cette recherche de l'oubli, même dans le feu de son activité la plus haute, Et pourquoi cette mort sinistre et banale? Presque aussi banale qu'ignominieuse, il meurt entre deux voleurs. Pourquoi, enfin ressuscité, pourquoi est-ce qu'il n'apparaît qu'à quelques-uns et rarement? 14 apparitions au maximum en 40 jours. Et encore, le chiffre est discutable. Puis, il monte au ciel, glorieux. Alors pourquoi est-ce qu'il n'offre le spectacle de son triomphe qu'à une poignée d'hommes? Puis comme un contraste brutal à pareil effacement, il y a la gloire. Et d'abord, c'est Saint-Pierre qui crie quelques jours après la Pentecôte, il déclare sous le ciel pas d'autre nom que le nom du Christ pour être sauvé. Il a compris, Saint-Pierre. Pour être sauvé, je vous expliquerai ce que ça veut dire, si vous ne le savez déjà. J'espère que tout le monde le sait. Et Saint-Paul ajoute que de son côté, Jésus est le chef des anges et des hommes, le maître de l'histoire, le centre de l'univers. Devant lui, tout genou fléchit sur terre, au ciel et aux enfers. Et souvenez-vous que les premiers chrétiens, nos ancêtres, dans la foi, chantaient « Grand est le mystère de celui qui a été manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, vu des anges, proclamé chez les païens, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. » D'une part, donc, il y a l'abjection, puis de l'autre, il y a la grandeur. Mais comment éclaircir ces contradictions? Au fond, quand on regarde la vie de Jésus d'une façon trop superficielle, on a inévitablement un paquet de questions. Des paquets de questions inquiétantes, je dirais, qui surgissent. Les évangiles nous ouvrent certes une route sûre. Et c'est pourquoi je voudrais la suivre brièvement avec vous. Ainsi, il y a l'épisode du début de la vie de Jésus. C'est raconté par Saint-Luc. C'est au début, là, il y a 12 ans. Et pour un juif, il vient d'atteindre sa majorité religieuse. Aujourd'hui, on appelle ça le bar mitzvah. Il monte au temple avec ses parents et sans les avertir, il reste à Jérusalem. Alors, ses parents sont angoissés, ils le recherchent et durant 3 jours, finalement, ils le retrouvent. Et alors, sa mère lui demande, et écoutez, c'est très étrange, elle lui dit, « Mon enfant, pourquoi tu fais cela? Regarde, ton père et moi, nous te cherchions, nous étions angoissés. » Puis lui, il leur répond, « Et pourquoi me cherchez-vous? » Il répond par des questions, c'est presque un peu insolent. Hein? « Et pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? » Deux réponses. Hein? Deux réponses. Mais c'est deux questions. Il ne doit qu'être qu'aux affaires de son père. Comment se fait-il qu'ils ne le savent pas, eux autres? C'est parce qu'il se tient à une hauteur à laquelle même Marie n'a pas d'accès. Saint-Luc le note d'ailleurs. Son père et sa mère ne comprirent pas. On commence à cerner le problème de Jésus, c'est un rapport avec son père. Et c'est ce que nous allons voir durant toute l'année liturgique. Et pourtant, la Vierge et Joseph étaient bien mieux que n'importe qui en situation de comprendre. C'est sans doute que ce destin de Jésus qui s'affirme ne sera pas ordinaire et va se dérouler ailleurs, chez le Père. Autant dire que tout ce qui s'accomplira d'immense et de prodigieux s'accomplit à l'intérieur de Jésus, comme dit Romano Guardini. Tout ce qui s'accomplira d'immense et de prodigieux s'accomplit à l'intérieur de Jésus. Voici maintenant que Saint Jean rapporte quelques 18 ans plus tard une scène qui va éclairer toute la suite. Jésus passe par la Samarie, vous vous souvenez? C'est au début de son ministère, il y rencontre une femme pécheresse, il la convertit, puis il y a un dialogue qui se prolonge. Là, les disciples, entre-temps, le supplient de manger, mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Puis il leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui, voyez-vous, on revient au Père, là, la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. » C'est ça, sa nourriture. C'est très paradoxal. Hein? Comment ça se fait que le fait de se donner, se dépenser, de faire la volonté d'un autre, comment cela peut-il procurer de l'énergie, alors qu'on sait d'expérience combien l'action fatigue et épuise? Hein? À qui le dites-vous, moi qui fais une émission par jour? Mais pour le Christ, la volonté du Père est nourrissante. Faire la volonté du Père est pour lui un accomplissement. C'est ce que les saints ont compris aussi. À 12 ans, à 30 ans d'abord, au seuil de sa vie, du travail, ensuite juste avant sa prédication, là, Jésus place la volonté de Dieu au cœur de sa vie. Voilà la clé précieuse pour déchiffrer l'énigme de Jésus. C'est sous le regard du Père donc que se déroule cette existence. Plus exactement, le regard de Jésus recherche toujours celui de son Père. Il dit « en vérité, je vous le dis ». C'est très beau ça, le Fils ne peut faire de lui-même rien qu'il ne voit faire au Père. Prenons quelques-unes de ses attitudes pour bien comprendre Jésus, pour apprendre à le connaître. Prenons les miracles. Pourquoi Jésus les accomplit-il? C'est pas pour un avantage personnel. Sinon, il aurait transformé en pain les pierres du désert au moment de la tentation du diable, vous savez, sur la montagne. Ou bien, il se serait dérobé à ses bourreaux, ils n'auraient pas pu le rejoindre à l'heure même de ses souffrances. Non, c'est pas un fantaisiste. Il n'y a chez lui aucune recherche de son bien-être ou de sa gloire. Quand la foule enthousiaste veut le récompenser d'avoir multiplié les pains en le proclamant roi, Jésus à nouveau s'enfuit sur la montagne tout seul. Car il sait que ce qui est élevé pour les hommes est l'objet de dégoût aux yeux de Dieu. Je répète, c'est très important, il faut se mettre ça dans la tête pour comprendre Jésus. Ce qui est élevé pour les hommes est l'objet de dégoût aux yeux de Dieu. Alors, est-ce que la pitié va être le motif de ces guérisons? Ça, on ne peut certainement pas le nier. Quand les aveugles crient vers lui, les paralytiques, puis vous vous souvenez la détresse de Jaïr, de Marthe et de Marie, par rapport à la mort de Lazare, de la veuve de Naïm. Jésus, dit Saint Luc au chapitre 7, est pris aux entrailles. Il est très sensible à la douleur. Mais est-ce que c'est là la raison de tant de manifestations de bonté et de puissance, hein? Quand on lit l'Évangile comme il faut, on s'aperçoit que l'attitude de Jésus au tombeau de Lazare est très suggestive. Vous vous souvenez? Le tombeau est ouvert. D'un mot, Jésus, maître, va faire avancer le mort. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, c'est dans le texte, « Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. » Je te rends grâce. C'est très important. C'est notre attitude fondamentale. Nous devons être, nous aussi, en action de grâce. Et ça, la messe, action de grâce adressée à notre Père. « Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours. » Mais c'est pour tous ces hommes qui m'entourent que je parle, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Alors on voit bien alors que la vraie raison des miracles de Jésus, c'est la glorification de son Père. Jésus leva les yeux au ciel, Jésus prit le Père. N'est-ce pas? D'ailleurs, la foule s'y trompe pas. À chaque guérison, on remarque ça dans les évangiles, le cri de louange du peuple juif le retentit à la gloire de Dieu, à la gloire de Dieu. Je vous le rappelle, c'est ce que nous faisons à la messe. C'est ce que nous faisons à la messe. Jésus est venu en bas, sur la terre. Il est un terrien. Est-ce qu'il s'y trouve dépaysé? Ou plus exactement, est-ce qu'il a pas vu à travers la création les traces de Dieu? Il y a les moineaux, Non, pas une tombe, du nid, il parle de ça. Hein. Il y a la brebis qui s'égare au désert, la poule qui arrondit ses ailes. Il remarque toutes ces beautés. Hein. Il parle du blé, il parle des oiseaux du ciel qui s'ensemaignent une moisson. Le père les nourrit d'une béquée, l'hélice des champs de Galilée qui rivalise de gloire avec les vêtements somptueux de Salomon, le magnifique, etc., etc. Il y a la beauté des crépuscules, hein. Le rouge fulgure. Ah, les descriptions, là, en Matthieu 16, 2, il parle du rouge sombre des aurores. Partout, on soupçonne que le regard intérieur de Jésus dévisage quoi? La présence invisible de son Père. Son oreille à Jésus, elle est attentive au moindre bruissement des choses et des êtres. Les douleurs, les malheureux. Jésus décèle le chant du monde, je dirais, à la gloire du Dieu créateur. Mais ce n'est pas tout. Il voit surtout en ses frères les hommes un peu du reflet qui vient du Père des Lumières, comme il est dit. S'il s'agit du travail, Jésus qui a manié le bois sait bien mieux que n'importe qui sa valeur, car que le maçon choisisse pour les fondations le roc plutôt que le sable, que le cultivateur sorte pour semer, comme il dit, le berger pour prendre la tête du troupeau, ou la femme pour tourner la meule, ou réparer une tunique. Le charpentier de Nazareth, Jésus, a remarqué ces gens-là. Et il les a aimés. Et dans les moindres actions de ces hommes, Jésus savait lire comme un reflet des tendresses de son Père. Le rapport de Jésus est constamment avec son Père, et c'est là qu'il est notre modèle. Nous devons toujours être en rapport avec Dieu, notre Père. Particulièrement à l'Eucharistie, qui est un sacrifice, une assemblée à la gloire de Dieu, notre Père. Et c'est au début de ce nouvel an liturgique. Et c'est pour ça qu'il est question de Jésus-Christ et de son rapport avec Dieu, son Père, notre Père, qui est au creux de notre foi, au centre de l'Évangile, au centre de nos sacrifices eucharistiques, de nos messes. C'est extrêmement important, et nous ne saurions vivre sans comprendre tout cela. Et on peut se demander d'où lui venait à Jésus l'illumination intérieure qui lui permettait de toujours trouver au fond des choses la présence de son Père. L'Évangile l'insinue plusieurs fois. Ça vient de sa prière, de la prière de Jésus. Il n'y a pas de doute. Comme fils de Dieu, c'est sûr qu'il n'avait pas besoin de prier. Tout puissant au ciel et sur la terre, sans cesse dans le Père et le Père en lui, il régnait, il était Dieu. Mais en tant qu'être humain, en tant qu'être raisonnable et sensible, en tant que créature, en son âme et en son corps, il devait entrer en dialogue avec la divinité. Et quelle immense oraison que la vie de Jésus, quelle immense prière. D'abord, au cours des mois et des saisons à Nazareth, il s'y assure qu'il récite des psaumes. Il assiste aux offices de la synagogue, il prie après les journées de travail, lorsque s'allument les lampes à l'huile. Le ministère ne l'arrache pas à ses entretiens solitaires. Au lendemain de ses premières heures d'apostolat à Capharnaüm, au bout du lac, Saint-Marc nous dit que le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit, s'en alla en un lieu solitaire, et là, il priait. Saint-Luc rappelle qu'avant l'investiture de ses apôtres, il s'en alla dans la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Puis à la transfiguration, là sur le mont Tabor, c'est écrit, pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage changea et ses vêtements devinrent d'une blancheur fulgurante. Cette prière de Jésus a dû frapper son entourage. C'est écrit, un jour, quelque part, il priait. Quand il eut fini, ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Et Jésus lui enseigna le Notre Père. Or, si on examine attentivement la version dans Saint-Luc, celle de Saint-Luc, la version du Notre Père, On peut que remarquer que la demande que votre volonté soit faite n'y est pas mentionnée. Elle viendra pourtant dans Saint-Luc, cette prière, mais dans un contexte encore bien plus parlant, au fond. C'est au Jardin des Oliviers. Jésus va supplier son Père. Il va lui dire, « Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Qu'est-ce que ça veut dire, sa volonté de Dieu, comme ça? On se mélange beaucoup là-dessus. Oh, grand Dieu, qu'on se trompe souvent. La volonté du Père dans la vie du Christ, c'est toute la vie du Christ. Il ne s'agit pas d'un simple regard posé sur Dieu, là. Est-ce que Jésus ne nous a pas avertis? Il dit, ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux. Mais, il dit bien, c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Alors, quelle force sa conduite a donnée à ces paroles? Pour lui, l'essentiel, c'est non seulement de connaître, mais de vivre. Vivre jusqu'au bout cette volonté. C'est ça qui fait les saints. Vivre jusqu'au bout la volonté du Père. Et c'est pas plate, hein? Il y a des gens qui disent, « Ah, oh, c'est épouvantable, c'est effrayant, ça doit-il être ennuyant. Ah, 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 moi, je veux pas faire la volonté de Dieu. Je me rejette, je rejette la volonté de Dieu. » Non, c'est en s'unissant cette volonté qu'on trouve le bonheur. Et c'est parce que le Père le voulait ainsi que Jésus-Christ a vécu pauvre. La volonté du Père l'a jeté nu à Bethléem où il est né. Parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôtel Rivaux, vous vous souvenez. Hein? La volonté du Père l'a fait appeler Nazaréen. D'après les explications les plus plausibles, ça signifie Nazaréen méprisé, sans éclat, comme quelqu'un qui sort de ce trou de Nazareth. La volonté du Père l'a condamné à errer sur les routes, sans feu ni lieu, sans endroit pour reposer sa tête, dit Saint-Luc. Jésus, donc, commence à prêcher. Or, il est rejeté par les Juifs, ou par des Juifs. Il aurait pu recevoir un meilleur accueil parmi les païens, semble-t-il, mais il court pas les mers et les pays, il refuse l'offre que certains Grecs manifestent de le connaître. C'est dans Saint Jean, chapitre 12. Le Père a voulu limiter sa mission à la terre ingrate de Palestine et à son peuple plutôt têtu. C'est dans Saint Matthieu. Il n'a été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il est le Messie tant désiré par les Juifs, celui que les Juifs attendaient avec tant d'espérance et tant d'amour. Et en dépit de ses succès plutôt éphémères des premières heures, il est évident que l'œuvre de Jésus-Christ aboutit à un grand fiasco. C'est le Père qui l'a décidé ainsi, semble-t-il, et qui, de toute éternité, ne lui a pas ménagé un sort plus heureux qu'à tant d'autres prophètes. Jésus, et comme les autres prophètes, rejetés. Voilà une carrière post-apostolique qui aurait pu prendre au fond l'allure d'un grand triomphe. Hein, Jésus accepte pourtant le déroulement terne et décevant. Ses disciples, il l'affirme haut et clair, vont accomplir des œuvres plus grandes que les siennes. Lui, il accomplit la volonté du Père, tout simplement, tout simplement. Un mot revient surtout dans l'évangile de Saint Jean qui rend cette volonté palpable, sensible. Il est question de l'heure, c'est-à-dire le moment fixé par Dieu dans sa volonté où, par sa passion et sa résurrection, Jésus va être glorifié. Et c'est ainsi que se détermine l'axe de sa vie. Tout le reste oscille autour de ça. Ce que le Père a résolu, ce qu'il a annoncé là par les Écritures, va se réaliser sans que rien n'arrête cette détermination de la sagesse éternelle de Dieu. Ni Hérode qui cherche à le faire mourir. Vous savez, Jésus déclare, « Allez dire à ce renard, voici que je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'achève mon œuvre. » Les pharisiens aussi qui tentent de le lapider. Mais dans Saint Jean, on dit, « Jésus se déroba et sortit du temple. » Puis la hargne mortelle de certains Juifs qui, de cœur, l'ont déjà exécuté. Ils veulent le tuer. Certains Juifs, je dis bien, c'est pas tous les Juifs. Ses disciples lui disent, « Rabbi, tout récemment encore, des Juifs voulaient te lapider, tu retournes là-bas. » Mais cependant, lorsque le moment sera venu, Jésus ne résistera plus. Il s'offre au long baiser de Judas. Il abandonne ses mains aux liens qui l'enchaînent. Aux gardes chargés de l'arrêter, il déclare, « Voici votre heure et le règne des ténèbres. » C'est étrange, hein? Et la suite de la Passion sera comme un accomplissement de la volonté du Père. Est-ce que je vais repousser la coupe que m'a donnée le Père? Est-ce que je vais refuser de la boire? Et avant de plonger dans ce baptême de sang, comme il est dit dans Saint-Luc, Jésus déclare en Saint-Jean, « Vous me laisserez seul. » Puis il ajoute, « C'est très beau, mais non, je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. » Nous ne sommes jamais seuls, ni les uns ni les autres, car comme Jésus, le Père est avec nous. Nous sommes ses fils adoptifs et ses filles adoptives. Pourquoi le Père est-il avec lui, avec Jésus? Quelques mois plus tôt, Jésus courageusement affirmait aux Juifs, « Le Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais ce qui lui plaît. » Quand on fait ce qui plaît à Dieu, Dieu est avec nous. Et le décor de la Passion de Jésus, c'est hideux. Les personnages sont nourris d'une haine et d'une lâcheté diaboliques, qui sont terribles. Mais on perçoit en Jésus la sérénité quand même, contre la mauvaise volonté qui fonce sur lui. Jésus ne peut que se réfugier dans la sainte volonté qui le porte. Il ne se sait en conformité avec la volonté du Père. Il s'y maintient fermement. Il penche de tout le poids de son amour du côté de Dieu. Le cœur du Christ se nourrit là, d'une paix étonnante, celle qui, au milieu de cette exécution terrible, lui permet d'accepter des situations les plus humiliantes, être livré aux païens, mis au rang des scélérats, se laisser dépouiller de ses vêtements, endurer la soif, pour que l'Écriture, c'est-à-dire la volonté du Père, soit accomplie. Et dès lors, on comprend toute la portée de la dernière parole de Jésus. C'est dans Saint Jean. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il rendit l'esprit. Alors, on voit bien qu'avant de remettre entre les mains du Père une vie qu'il entièrement usait à son service, il convenait que ce parfait serviteur de Dieu, par ses mots, rendre compte de sa mission puis de son accomplissement. Aux disciples d'Emmaüs, déconcertés par la catastrophe du Vendredi Saint, Jésus déclarait, ne fallait-il pas que le Christ souffrît pour entrer dans sa gloire? C'est une parole très étrange, ça. Ce que ça veut dire, ne fallait-il pas que vous vous rendiez compte, enfin, combien je vous aime, combien Dieu vous aime, jusqu'où Dieu peut aller pour dépasser tout et pour en arriver à vous présenter une preuve irréfutable de son amour total. Oui, Dieu vous aime, je suis l'amour. Sans nul doute, le ressuscité donne ici la clé. Oui, la clé non seulement de ses souffrances, mais de son existence entière. Est-ce qu'on n'est pas trop déconcerté par ce « il fallait » Est-ce qu'il s'agit d'un destin inexorable auquel le Christ devait fatalement se plier, ou une espèce de destin Ou bien, si l'on peut dire, d'une espèce de nécessité sociale et historique, à savoir que bien des Juifs, de par leur foi profonde au Dieu unique, de par leur caractère aussi, puis certains préjugés, étaient si aveuglés qu'il fallait que le Messie aboutisse à la croix. Ou encore, et ça c'est un problème, faut-il imaginer un Dieu jaloux, une espèce de despote, qui a résolu la rédemption du monde par le sang de son Fils, à l'instar d'un espèce de maître qui est abreuvé d'expiation, et qui, à cause de cette idée fixe et cruelle qu'il a dans la tête, aurait exigé cet épouvantable sacrifice? À mon avis, il est évident que cette dernière réponse est étrange. Étrange. Cette explication est superficielle et fausse, il me semble. C'est contraire à la révélation essentielle de la Bible, à savoir que Dieu est amour. Quand on lit l'Évangile et qu'on lit la parabole de l'enfant prodigue, pour éclaircir cet « il fallait », il nous faut relier le Nouveau Testament à l'Ancien, et c'est dans le climat, la mentalité de la loi, des prophètes, des psaumes, que s'est cristallisé l'Évangile. Là, le Christ, il faut pas l'oublier, là, il n'est pas né en Israël par génération spontanée. Il était prévu, annoncé, disons même que certains de ses traits avaient été dessinés à l'avance. Comment ça? Mais oui, souvenez-vous, Quelle est la plus haute et la plus surprenante image du Messie que nous a laissé l'Ancien Testament? Est-ce que c'est pas celle du serviteur souffrant? Vous connaissez tous ça, hein? Dont parle le prophète Isaïe au chapitre 53. C'est tellement beau, ça. Aux Juifs incapables de réaliser l'idéal de service et de soumission qu'exigeait leur alliance de Dieu, c'est pas avec son peuple. Mais le prophète Isaïe laisse bien entrevoir un homme. Et je cite, hein? Voici le texte. « Homme de douleur et connu de la souffrance. » Toute l'œuvre de cet homme va consister à être transpercé, c'est le texte, « être transpercé à cause de nos péchés, écrasé à cause de nos crimes. » Mais à cause de nos crimes, comment ça? Par sa soumission humble, sans murmure, ce qui plaît à Dieu s'accomplira. Une soumission humble et sans murmure, mais pleine d'amour. Son lien au Père est indéfectible. Il est dit dans Isaïe aussi, par ses souffrances, ce serviteur justifiera des multitudes. Ses souffrances vont être un exemple et une source de vie pour des multitudes qui, au creux de leurs souffrances, resteront attachées à l'amour de Dieu par le secours de l'Esprit-Saint, l'Esprit d'amour. Qu'on réalise ces 12 versets si drus, si denses d'Isaïe, et l'on pourra pas s'empêcher de songer à une vision du calvaire anticipée 5 siècles à l'avance. Ainsi, fallait-il que le Christ souffre? Eh bien, il devait accomplir une volonté longuement méditée auparavant. Il devait réaliser un idéal dont la signification fulgurante ne devait éclater pour les apôtres qu'au feu de la Pentecôte. Non, mais ce n'est pas tout. Une fois Jésus revenu au Père, mais l'Esprit Saint, fruit éternel de leur amour infini, répandu sur les premiers chrétiens et répandu sur nous tous, eh bien, la vie du Christ, ses souffrances et sa mort, surtout, prennent un sens étrange et posent une question bien grave. A-t-on jamais vu un homme si patient sous les coups du sort, plus exactement si livré à la volonté divine à travers les événements? Est-ce qu'on a déjà vu ça avant? Non, jamais. Jamais. Il va jusqu'à pardonner. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il y a quelqu'un d'autre qui agit comme Jésus. C'est ce personnage dont je viens de vous parler, ce personnage dont parle Isaïe, hein? Comme d'un idéal. Or, c'est Jésus lui-même qui est décrit par Isaïe. Il est évident que Jésus de Nazareth s'identifie avec le serviteur de Dieu, entrevu par Isaïe le prophète, hein? Au sommet, le plus haut de sa révélation. Et aussi, bien Saint-Pierre, le premier pape pour nous catholiques, dès le début, prêche aux Juifs ce Jésus livré selon le dessein ou le projet bien arrêté de la préscience divine. Il l'appelle le Saint, le Juste. Jésus-Christ, c'est donc un serviteur? Comment ça? On ne peut qu'être étonné de prime abord par cette expression. Nous qui, par la foi, savons que Jésus est le Fils de Dieu, et pourtant, c'est sous cet aspect de serviteur. Il faut se nourrir de cette idée. Nous sommes, nous, des serviteurs. Et le plus beau titre du pape, c'est d'être le serviteur des serviteurs de Dieu. C'est sous cet aspect de serviteur qu'il a plu à Dieu. Les textes en font foi. De révéler son Fils à la première génération chrétienne. Et cette découverte prodigieuse, on pourrait la formuler de cette manière-ci. Jésus a si bien accompli la volonté divine que seul un Dieu est capable de donner à Dieu une réponse si pleine, si parfaite, si absolue. Cet homme-là ne peut être que le propre Fils éternel de Dieu. Je répète cette phrase extrêmement importante. Écoutez-la bien. Jésus a si bien accompli la volonté divine que seul un Dieu est capable de donner à Dieu une réponse si pleine, si parfaite et si absolue. Cet homme-là ne peut être que le propre Fils de Dieu. Et en l'an 56-57, durant sa captivité à Éphèse, saint Paul résume le secret de tant de grandeur et de tant d'abjection. C'est dans l'Épître aux Philippiens, c'est un des plus beaux textes de la Bible. Lui, en parlant de Jésus, de condition divine. Ne retiens pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, et devenant semblable aux hommes, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Et ainsi Dieu l'a-t-il exalté, et lui, il lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille, au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Somme toute, la soumission du Christ par obéissance jusqu'à la mort, puis à la mort de la croix, c'est le plus sûr lumière qui nous introduise au mystère de sa divinité. C'est ça la clé. Si on comprend pas ça, on a bien de la misère à être chrétien. C'est la plus sûre lumière qui introduise au mystère de sa divinité, au mystère de sa vie tout court. Il est allé jusqu'au bout et devient un modèle pour nous tous. Proclamons l'amour de Dieu, vivons l'amour de Dieu, donnons-nous jusqu'au bout, et que la justice de l'amour et l'amour de la justice soient notre vie. Deux conclusions qui s'imposent quand on a bien saisi cette vie de Jésus tout ancrée dans le Père. La première, ça concerne la valeur du message que notre Seigneur nous a donné sur Dieu. Puisqu'il a toujours été d'accord avec Dieu, puisque son existence est nourrie de cette volonté d'en haut, si exigeante, nul ne doute du sérieux des paroles du Christ. Avec quelle autorité alors, et combien il est qualifié pour nous parler du Père, particulièrement dans la parabole de l'enfant prodigue, relisez-la bien, où le Père de l'enfant, Jésus décrit son Père, plein d'esprit de miséricorde et de bonté. Faut lire les Béatitudes aussi, le sermon sur la montagne, ça prend l'allure d'une révélation. Quelles sont les pensées du Très-Haut sur la conduite des hommes? Entendre un tel témoin de la volonté divine, Jésus, on ne reste pas sans frémir devant une phrase aussi ferme que « Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Vous demandez où est la parole, peut-être, certains d'entre vous, c'est dans Matthieu, chapitre 6, verset 24. C'est la clé, une autre clé, une clé très importante par rapport au matérialisme, à nos petites possessions. Nul ne peut servir deux maîtres, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. On comprend combien sont perverties toutes les choses qui ne s'accomplissent pas sous le regard du Père, lequel lui voit dans le secret. On voit bien l'exigence de la demande du Notre Père, que votre volonté soit faite, et son commentaire éloquent. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et qu'est-ce que Dieu veut? Il veut l'amour sans condition. Parce qu'il est lui-même l'amour sans condition, la volonté de Dieu, Dieu tout court, comme le Sauveur parfait, le Fils qu'est Jésus-Christ, se trouve accrédité pour nous parler de lui. Nul n'est bon que Dieu seul, dit Jésus. C'est ce que Jésus déclare au jeune homme riche. Et de ce Père, au ciel et sur la terre, toute paternité tire son nom. Si nous sommes Père, nous devons l'être comme Dieu notre Père. Si nous sommes Mère, nous devons l'être comme le Père qui a un cœur de mère. Il est la source de tout. Vers lui, tout doit revenir en service et en obéissance. L'obéissance, c'est la joie. L'obéissance, c'est la liberté. Le Fils nous l'a prouvé, lui qui a été glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. En somme, je t'ai aimé, j'ai révélé à fond ton amour, dit Jésus. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. C'est ça qu'on doit faire, nous. Ben oui. La deuxième conclusion promise, si le Fils s'est fait le chemin sûr qui nous mène au Père, il dit « Je suis la route », il s'en est montré aussi le point d'arrivée. Jésus a été discret sur sa personne, sur son but, rendre gloire à Dieu ici-bas, en accomplissant dans l'amour sa volonté. Mais il n'a pas pu nier l'évidence, il était venu en chair, le propre Fils de Dieu. Dieu se faisant voir, entendre, palper aux hommes, et sa sainteté, éclatant dans son adhésion totale au Père, n'était pas la perfection morale d'un ascète, mais bien la manifestation d'un esprit filial. Mieux, je dirais, c'est l'expression d'une union d'amour. Il est notre modèle. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, vous ne me croirez pas. Mais si je les fais, quand bien même vous ne me croirez pas, croyez en mes œuvres, afin que vous sachiez, dit Jésus, une fois pour toutes que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Hein? Il ne s'agit pas seulement d'une collaboration extérieure, il s'agit d'une profonde unité d'être. Hein? Le Père et moi, nous sommes un. Et cette affirmation, peu de temps va sans passion, ne présente aucune ambiguïté. La plupart des Juifs ne s'y méprennent pas. Ils saisissent des pierres pour le lapider, ils sont horrifiés. Hein? Parce qu'étant homme, il se prétendait Dieu. C'est une horreur pour la plupart des Juifs. Et c'est compréhensible. Quelques jours plus tard, au tribunal de Pilate, acculé à démasquer les vrais motifs d'accusation, certains Juifs s'écrient rageurs, « Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir, il s'est fait fils de Dieu. » Alors il est crucifié par obéissance au Père, parce qu'il a osé manifester sa propre divinité, proclamer en somme la Trinité en Dieu et l'amour infini de Dieu. Et le Fils reçoit du Père honneur et gloire. Il ressuscite, il monte avec son corps glorifié à la droite du Père. Mais il ne nous oublie pas, il nous envoie l'Esprit Saint. C'est-à-dire que par l'Esprit Saint, nous pouvons, nous aussi, faire la même chose et transformer le monde. Il ne nous reste qu'à vivre ce qui est écrit dans l'Évangile. Il nous faut lire l'Évangile, chercher le visage de Jésus, celui qui a osé proclamer toute la vérité et à devenir le saint des saints, le plus saint de tous les êtres humains. Il nous donne la route, c'est à nous de suivre.